VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 16h à Abidjan, 17h à Niamey et 18h à Bukavu. Les candidats de l'opposition guinéenne appellent à l'annulation de l'élection présidentielle d'hier, affirmant que le scrutin de dimanche a été truqué pour favoriser le président sortant Alpha Condé. Selon l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Chris Stein, les 7 candidats de l'opposition ont tenu une conférence de presse ce lundi à Conakry pour dénoncer le scrutin qu'ils qualifient de grande déception. Ils ont dit avoir enregistré un certain nombre d'irrégularités, y compris des résultats falsifiés, le bourrage des urnes, l'intimidation et des cas d'arrestation par les forces de sécurité. Le principal concurrent de M. Condé, Sélou d'Alain Diallo, a déclaré que l'opposition ne reconnaîtra pas les résultats. Un diplomate occidental a déclaré aujourd'hui qu'il y avait eu d'importants problèmes logistiques dans tout le pays. Le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux de vote hier soir, parfois à la lumière des lampes torches, faute d'électricité. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant mardi. La République centrafricaine est le pays ayant le taux de malnutrition le plus élevé dans le monde, selon l'indice mondial de la faim 2015. Le rapport de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires indique que 2 100 000 personnes, soit 47,7% de la population, sont sous-alimentées en Centrafrique, qui affiche aussi l'un des taux les plus élevés de mortalité infantile. Et le Tchad a le deuxième taux le plus élevé de malnutrition, avec près de 4 400 000 personnes sous-alimentées, soit 34,4% de la population. Au Burundi, le ministre de la Sécurité, Alain-Guillaume Bunyoni, a affirmé ce lundi que la situation sécuritaire est globalement bonne sur toute l'étendue du territoire, sauf dans certains quartiers de la capitale où des criminels lancent des grenades depuis plusieurs mois. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Des cas d'insécurité ont été recensés par la police ces 3 derniers mois, selon le ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Plusieurs cadavres sont quotidiennement découverts dans plusieurs endroits de la capitale. Le ministre Bunyoni a affirmé que 130 cas d'assassinat ont été répertoriés, en plus de 48 tentatives d'assassinat. En outre, il indique que 28 cas d'incendies criminels ont été observés un peu partout dans le pays. Plusieurs armes, dont 3 lance-roquettes et 5 bombes, ont été saisies par la police. Le ministre burundais de la Sécurité publique indique aussi que plus de 3500 dossiers pénaux ont été traités par la police judiciaire et transmis aux différents parquets du Burundi. Plus de 3000 personnes ont été appréhendées par la même police. Alain-Guillaume Bunyoni recommande à la population de dénoncer les criminels et de fournir à la police toute information susceptible de faire avancer les dossiers. Il est à signaler que 2 personnes ont également été tuées dimanche soir au nord de la capitale. Rappelons que le Burundi a retiré son agrément à l'ambassadeur de Belgique à Bujumbura suite à une dégradation de confiance entre les deux pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le magistrat militaire, le colonel Sita Sangaré, est entré en fonction ce matin en tant que nouveau directeur de la justice militaire. Cette juridiction sera chargée de juger l'affaire Thomas Sankara et également le coup d'État du 16 septembre. Notre envoyé spécial à Ouagadougou, Bagassikoura, lui a tendu le micro.
Nous avons le dossier Thomas Sankara, nous avons également le dossier relatif à la dernière tentative de coup d'État au Burkina Faso, que des collaborateurs sont en train d'instruire, et cela requiert certainement de la patience, également la compréhension de tout le monde. Et la compétence de ce dossier revenait de plein droit au tribunal militaire, s'agissant d'atteinte à la sûreté de l'État, le code de justice militaire est formel. Lorsque des militaires sont impliqués dans une tentative, dans une atteinte à la sûreté de l'État, c'est la compétence pleine et entière de la juridiction militaire. Et le tribunal militaire ayant obtenu l'ordre de poursuite, le juge d'instruction civile initialement saisi a rendu la seule décision logique qui s'imposait, à savoir se déclarer incompétent et transmettre l'ensemble de la procédure au tribunal militaire. Et donc, prenant la relève, les juges d'instruction militaire qui ont été désignés ont confirmé l'ordonnance de gel. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Quelques heures à peine après les attentats sur les bords du lac Tchad, les islamistes ont frappé de nouveau, non loin de là, mais cette fois au Cameroun. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser vers 6 heures, 5 heures temps universel, dans le village d'Okangaleri, à une trentaine de kilomètres de Mora, dans la province de l'extrême nord, selon une source sécuritaire et un responsable local. La première femme a tué 9 personnes dans un petit restaurant populaire vendant du lait et des beignets, tandis que la seconde s'est fait exploser seule sans faire de mort, a expliqué ce dernier. Parmi les 29 blessés, plusieurs sont actuellement dans un état très grave et ont été acheminés d'urgence vers les hôpitaux de la région, a-t-il précisé. Il s'agit des 14e et 15e attentats suicides dans l'extrême nord du Cameroun depuis juillet. Plus de 100 personnes ont péri dans ces attentats attribués aux islamistes nigérians.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le premier ministre turc Ahmet Davutoğlu a déclaré ce lundi que le groupe État islamique est le principal suspect dans l'enquête pour déterminer qui est responsable du double attentat suicide de samedi à Ankara, dans lequel au moins 97 personnes ont été tuées et 160 blessées. Monsieur Davutoğlu a dit que les autorités sont proches d'identifier un des kamikazes. Les journaux turcs ont rapporté que les autorités ont obtenu des échantillons d'ADN issus de familles d'au moins 16 personnes soupçonnées d'être des membres du groupe État islamique. Personne n'a revendiqué la responsabilité de ces explosions qui ont visé un rassemblement pour la paix. Selon le Premier ministre, ces attentats meurtriers visaient à influencer les élections législatives programmées le 1er novembre en Turquie, mais il a souligné que le scrutin aura lieu tel que prévu. Le Conseil européen demande à la Russie de mettre fin immédiatement aux attaques militaires en Syrie qui ne ciblent pas le groupe État islamique ou d'autres organisations terroristes désignées par l'ONU. Le ministère de la Défense russe affirme que ces appareils ont ciblé 53 cibles en Syrie au cours des dernières 24 heures, postant des vidéos en ligne de ce qu'il décrit comme des frappes aériennes contre un camp d'entraînement du groupe État islamique dans la province d'Idlib et des installations souterraines du même groupe dans la province de Latakia. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi qu'il soutenait la stabilisation du gouvernement de Bachar al-Assad afin de créer les conditions pour parvenir à un compromis politique. L'américano-britannique Angus Deaton a remporté ce lundi le prix Nobel d'économie pour ses recherches sur la consommation, en particulier celle des personnes pauvres, étudiant par exemple la relation entre les revenus et le nombre de calories consommées. Ce professeur de 69 ans, né à Édimbourg en Écosse, et qui travaille à l'université de Princeton aux États-Unis, a été primé pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être, a indiqué le jury. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés a appelé l'Union européenne à accueillir plus de réfugiés dans le cadre de sa politique de relocalisation et à leur ouvrir plus de voies légales pour s'installer dans l'Union. Pour Antonio Guterres, les plans de répartition de 160 000 réfugiés entre les 28 membres ne sont pas suffisants. Le responsable du HCR a tenu ses propos après une visite en Grèce, pays qui a enregistré depuis janvier plus de 400 000 arrivées de réfugiés et migrants. Et un tribunal égyptien a ordonné ce lundi la remise en liberté de deux fils de l'ex-président Hosni Moubarak, condamnés à 3 ans de prison dans une affaire de corruption. Alaa et Gamal Moubarak avaient présenté une demande de remise en liberté, arguant du fait que le temps qu'ils ont passé derrière les barreaux en détention provisoire depuis la révolte de 2011 couvrait leur peine de 3 ans. Ces derniers mois, des responsables du régime de M. Moubarak, accusés dans des affaires de corruption, ont été acquittés. Voilà le prochain bulletin, c'est dans 50 minutes sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.